9h, 11h.
Europe 1 Culture Média.
Philippe Vandel.
Bonjour Gwenaëlle Le Solleux.
Bonjour.
Vous êtes journaliste, cofondatrice et rédactrice en chef de l'Éléphant, revue de culture générale. Sinon, la revue de culture générale, c'est un trimestriel. Ça vaut 16,90€ en kiosque, mais on la trouve évidemment sur Internet. On en parlera après avec nous, avec vous, Kirill Nikitine. Bonjour.
Bonjour.
Pourquoi vous ? Parce que vous venez de signer dans ce nouveau numéro de l'Éléphant un article qui nous a passionnés ici à Culture Média, quand le numérique transforme la communication politique. On en reparlera. Mais d'abord, Gwenaëlle Le Solleux, présentez-nous l'Éléphant. C'est une revue de culture générale, le nom n'a pas été choisi au hasard.
Non, effectivement, l'éléphant, ça n'est pas un magazine autour des pachydermes ni pour les enfants. On est parti de l'idée que l'éléphant avait la réputation d'avoir une bonne mémoire. Et l'idée de la revue, c'était vraiment à la fois d'être sur le pilier de la culture générale, c'est-à-dire tous les savoirs, l'ensemble des savoirs, et pas que la culture. Et puis essayer d'aider le lecteur à mémoriser. Et donc voilà, et on trouvait aussi que l'éléphant était un... D'abord, c'est un animal qui a un capital sympathie assez fort et qui permet de casser l'image que peut avoir le mot « culture générale » qui parfois effraie un peu les gens. Voilà, donc on a essayé de mixer les deux.
Oui, ça ne sert à rien de regarder un documentaire de 2 heures sur Richelieu si on a tout oublié le lendemain. Et c'est justement ce qui est très intéressant dans votre manière de procéder. Pour lancer la revue, vous avez travaillé avec un laboratoire de sciences cognitives de l'Université de Lyon, si je suis bien informé. Que vous ont appris ces scientifiques et question évidemment qui arrive, comment cela se manifeste-t-il dans le journal ensuite ?
Alors l'idée de... Bon, il n'y a pas de recette magique, il faut quand même le dire tout de suite, il n'y a pas de recette magique pour la mémoire, mais il y a un certain nombre d'outils. Il y a des outils classiques que l'on connaît, c'est répéter, mais en fait ce que nous ont appris justement ces scientifiques avec lesquels on avait travaillé, c'est que répéter à l'identique, c'est-à-dire lire 5 fois le même article, ou le même texte hein, pour un étudiant, n'est pas forcément très pertinent. En revanche, aborder ce sujet par des entrées différentes, ce qu'ils appellent des épisodes différents, c'est-à-dire, si on est sur un sujet histoire, on pourra aborder la période historique par une anecdote dans le monde de l'art ou dans le monde politique, etc. C'est-à-dire, rentrer autour d'un sujet par des façons différentes. Ça vous permet de mieux le mémoriser. Le deuxième élément qui est fondamental dans la mémoire, c'est les émotions. On sait tous qu'on a des souvenirs très puissants, positif ou négatif d'ailleurs, qui sont liés à la mémoire. Et donc l'idée, c'était de se dire comment faire passer cette émotion dans la revue. Et ça passe par un outil qui est très utilisé souvent par les enseignants, qui est le jeu, parce que le jeu est ludique, le jeu est actif. Vous êtes
je
en mode...
souris, parce qu'il y a beaucoup de quiz dans l'éléphant, il y a même des quiz avant même qu'on ait lu l'article, donc on ne peut pas savoir.
Justement, on
appelle... Oui. Combien y a-t-il de piliers à la Sagrada Familia à Barcelone ? On ne le sait pas tant qu'on n'a pas lu l'article, mais quand même la question vous saute aux yeux avant même de le savoir.
Et alors, vous avez mis le point là-dessus, sur l'un des éléments qu'on avait mis en avant avec ce laboratoire, c'est que nous, on appelle ça entre nous le quiz apéro. C'est-à-dire que vous avez une façon de préparer votre cerveau au sujet que vous allez aborder. Et le quiz apéro, c'est ça. C'est-à-dire, je regarde cette question absolument anodine et à laquelle je ne sais pas forcément répondre, mais déjà, mon cerveau va se dire « Ah tiens, on va me parler de ce sujet ». Et donc, vous allez être, quand vous allez commencer à lire, vous allez être beaucoup plus réceptif dans la lecture du sujet.
Alors maintenant, on parle du contenu. On trouve quoi dans le journal ? C'est pluridisciplinaire.
Alors, c'était vraiment ça l'idée. C'était l'ensemble des savoirs. Nous, on est parti du principe que l'assemblage des savoirs permet leur mise en relation. En fait, c'est quoi la culture générale ? C'est un terreau qui vous permet de faire des liens entre, je ne sais pas si vous êtes sur un sujet de science, vous allez vous intéresser au contexte économique de cette découverte, au contexte politique. Souvent, vous, dans le domaine d'une découverte scientifique, vous allez avoir des répercussions dans le monde de l'art. Donc, en fait, l'idée, on se rend compte que c'est de supprimer les silos. On est plutôt aujourd'hui dans le monde de l'éducation, dans des silos. L'idée, c'était de supprimer ça et de faire que les choses se parlent. Parce que quand ça se parle, ça vous permet d'avoir une meilleure compréhension.
Je vais le dire d'une phrase, l'éléphant parle aussi bien d'histoire, d'art, d'économie, de société, de science, de philosophie. Qui sont vos auteurs et vos contributeurs ? Ça change à chaque fois, vous avez une rédaction. Alors, parce qu'ils sont très pointus.
Ils sont très pointus. Alors, on a quelques très réguliers. On a une petite rédaction, mais pour la plupart des gros dossiers, nous appuyons donc parfois sur des auteurs extrêmement réguliers, par exemple. Alors, ce sont des enseignants, pour répondre rapidement à votre question. Ouais. Pour la plupart, ce sont des enseignants et des experts. L'idée, c'était d'avoir des auteurs qui soient légitimes sur leur sujet et qui soient pédagogues. Donc, qui mieux que les enseignants et des experts. Et puis, on a aussi des journalistes. Peut-être Kirill est là pour en apporter la preuve. Pour des sujets plus d'actu, pour des sujets plus... Voilà.
On va en parler parce que moi, j'ai lu l'article sur les champignons qui est écrit par Francis Martin. Alors, je ne le connaissais pas. Il est directeur de recherche à l'INRA au sein d'un laboratoire spécialiste des interactions entre les arbres et les micro-organismes. On va pas lui demander d'écrire un papier sur les lamas du Pérou, sur la fission nucléaire. Il est plutôt spécialisé champignons.
Absolument. Mais je suis sûre que si vous avez lu son article, vous l'avez lu avec beaucoup de plaisir, je pense. Mais en tout cas, vous avez tout compris.
Exactement.
En fait, c'est vraiment notre propos. On a des gens qui sont parfois... Ce monsieur est un ponte dans son domaine, mais il sait s'adresser à tout le monde.
On est bien d'accord. Gonel Le Soleux, on a une minute pour que vous nous présentiez Kirill Nikitine avant qu'on parle de son papier qui nous a vraiment passionnés ici.
Eh bien, Kirill, nous travaillons avec lui depuis plusieurs années. Il est ce qu'on appelle un pigiste, c'est-à-dire qu'il intervient périodiquement. Nous avons commencé à nous connaître sur des sujets de philosophie. Et
tout
puis, il s'est orienté vers la philosophie des sciences. Donc, on est allé plutôt sur des sujets scientifiques. Et voilà, et progressivement, donc ponctuellement, il nous propose des sujets. Et nous avons travaillé avec lui sur celui-là.
Mais là, le sujet dont on va parler, on est presque sur la technologie, on est sur la sociologie, on est à un carrefour des deux. Racontez votre papier.
Alors, il s'agit des logiciels de stratégie électorale. Donc, en clair, ça mélange effectivement des phénomènes sociologiques, le phénomène des interactions politiques, comment est-ce que la vie des idées politiques est repensée via les logiciels numériques qui sont utilisés dans les cabinets de campagne. Et évidemment, ça pose aussi la question de la place du numérique. Qui, comme on le sait chacun, a une très grande place dans l'automatisation de toutes les activités humaines.
Et la place du numérique et aussi du libre arbitre, parce que votre papier est passionnant, mais parfois il fait un peu froid dans le dos. On va en parler. Gonel Le Soleux, Kirill Nikitine, Culture Média continue, à tout de suite.
9h-11h, Europe 1 Culture Média, Philippe Vandel.
En compagnie de Gwenaël Le Soleux, cofondatrice de L'Éléphant, la revue de culture générale, Kirill Nikitine, vous êtes journaliste à L'Éléphant, pigiste, vous signez un papier absolument passionnant, quand le numérique transforme la communication politique, ça pouvait pas mieux tomber entre les deux tours de la présidentielle. En quoi, Kirill Nikitine, la communication politique a changé avec le 2.0 d'Internet et les réseaux sociaux ?
Alors aujourd'hui, on va dire qu'on en est au début. Les logiciels de stratégie électorale ont été surtout connus pendant la campagne de Trump. Ouais. Où il a utilisé un système de profilage via les réseaux sociaux, via Facebook, qui a été ensuite interdit en France à partir de 2018, avec les lois...
C'est-à-dire, qu'est-ce qui a été interdit ?
Alors, ce qui a été interdit, c'était d'utiliser les données privées via les réseaux sociaux, voilà. Donc, à partir de ce moment-là, la CNIL a décidé... De ne plus, par exemple, avec la commission de campagne, a décidé de ne plus faire la publicité politique sur les réseaux sociaux. Et aujourd'hui, tous ces logiciels qui sont utilisés au sein des cabinets de campagne...
Non mais attendez, je vous interromps tout de suite. Donc je suis d'accord avec vous que les cabinets de campagne utilisent tous des logiciels. Il faut presque commencer par là.
Oui. Ça c'est un...
Tous les partis.
Ça maintenant c'est devenu standard, c'est devenu un classique.
Vous écrivez, vous dites, ça leur permet de traiter, je vous cite, les aspects les plus intimes de chaque citoyen, savoir s'il est plutôt stable ou imprévisible, s'il est très social ou bien solitaire, s'il est suiveur ou alors créatif ou original. Et ensuite, ça change quoi ? Ils en font quoi ?
Alors, il y a toutes sortes de programmes. Vous avez, on peut avoir le programme neutre, entre guillemets, qui est juste un programme de classification au niveau des âges, de l'adresse, la localisation, le travail, etc. Et puis ensuite, vous avez des programmes plus élaborés qui servent, comme vous dites, de profilage. C'est-à-dire, on établit des profils pour savoir...
C'est vous qui le dites, hein. J'ai pris ça dans votre papier. Hein. C'est vous qui le dites, c'est pas moi.
Et il s'agit donc de savoir à quel type d'électeur on a à en faire, dans quel quartier, quel travail, quel type d'entourage.
Mais une fois qu'on a appris ça de vous, admettons qu'on apprend que vous soyez imprévisible, vous aurez pu choisir stable. Qu'est-ce que les partis politiques et ces cabinets-là vont faire de cette information ?
Alors, par la suite, selon votre profil, on va savoir comment s'adresser à vous. C'est-à-dire, si vous êtes plutôt convaincu et très militant, à ce moment-là, on va vous envoyer si vous êtes inscrit à une newsletter, etc., on va vous demander de participer au nom du parti pour pêcher d'autres électeurs. Si par contre vous êtes plutôt imprévisible et plutôt instable, à ce moment-là, on va le faire par des biais détournés. En l'occurrence, en fait, ces logiciels servent aussi sous couvert de démocratie participative numérique, servent également à prendre aussi les idées des citoyens et des électeurs pour établir des programmes ou en tout cas des perspectives sur des sujets qui ne sont pas encore faits dans les cabinets.
Alors c'est peut-être le seul point positif de ce papier qui fait un peu froid dans le dos. Est-ce que ça, c'est pas une bonne chose, justement, de récupérer ? Est-ce que c'est pas ce qu'avait fait Emmanuel Macron avec le grand débat ? Obtenir des infos, des desiderata des citoyens ?
Alors, ça dépend comment on le fait. C'est-à-dire, je cite un exemple, vous avez le site de Ségolène Royal, Désir d'avenir, qui a été mis en place justement pour avoir les réclamations et pour avoir l'opinion des militants. Mais le programme n'a pas été mis en ligne auparavant. Et on a des anciens, par exemple, on a des anciennes personnes du PS qui ont travaillé pendant la campagne de Macron à l'REM, il y a des ouvrages documentés, il y a des témoignages, par exemple, je cite l'ouvrage...
Il y a des ouvrages qui disent quoi ?
Recueillent le témoignage d'anciens députés PS qui travaillaient pour l'REM, en disant, effectivement... Toutes ces plateformes qui nous servent à faire remonter les réclamations des citoyens, au final, sont là pour établir un programme qui n'est pas forcément encore fait. Ou en tout cas, ça dépend des sujets. Voilà.
Est-ce que c'est légal ou est-ce que c'est illégal
Alors,
en France désormais ?
Non. Alors non, il faut savoir que
non, c'est pas légal ou non, c'est pas illégal.
C'est légal, c'est-à-dire que c'est bien ça qui pose un véritable problème aujourd'hui, c'est que la RGPD, le règlement général sur la protection des données, interdit en fait l'utilisation des noms propres, de la localisation, des adresses, etc. via toutes les données publiques sur les réseaux sociaux. Donc même si ça reste légal, il faut savoir que les cabinets de campagne ont des logiciels d'analyse sémantique où ils analysent en statistique uniquement le langage de tout ce qui est dit sur Internet. Et c'est pour ça qu'actuellement, c'est beaucoup critiqué, justement parce que c'est fait de manière assez superficielle. Voilà.
C'est à lire dans l'éléphant. Merci beaucoup, Kirill Nikitine. Merci beaucoup, Gwenaëlle Le Saulleux, d'avoir été avec nous en direct. C'est en kiosque, c'est un trimestriel. Il y a le site Internet. On n'a pas eu le temps d'en parler. Il y avait tellement de choses dont on voulait parler. Merci d'avoir
merci beaucoup,
été
Philippe.
Avec
merci.
Nous en direct. Culture Média continue après les infos de 10h. Les télescopages de Bruno Donnet. Il a regardé Emmanuel Macron en déplacement dans le Nord et Marine Le Pen, c'était dans Lyon. Il a vu peu de politique, mais beaucoup de mise en scène. Et puis notre invité sera le réalisateur et écrivain Régis Varnier pour son dernier roman, La dernière vie de Julia B, sur les coulisses du cinéma. Dans Les Indispensables, musique avec Stéphanie Loire et Olivier Benkemoun va nous faire découvrir du water polo gay. L'humoriste imitateur Marc-Antoine Lebray en fin d'émission. A tout de suite sur Europe 1.
Jusqu'à 11h, Europe 1 Culture Média.